VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Villon, bonjour à tous. Il est midi à Yaoundé au Cameroun. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé aujourd'hui que toutes les personnes impliquées dans le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, y compris les commanditaires, devraient être punies. La conscience internationale ne sera apaisée que lorsque toutes les personnes impliquées, des exécutants aux commanditaires, auront été punies, a déclaré M. Erdogan lors d'un discours devant le groupe parlementaire de son parti, proposant que 18 suspects arrêtés en Arabie soient jugés à Istanbul. Le conseiller de la Maison-Blanche à la sécurité nationale, John Bolton, a rencontré ce mardi le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, au lendemain de ses entretiens intenses avec plusieurs hauts responsables russes centrés sur le retrait américain d'un traité nucléaire avec Moscou. John Bolton a déjà discuté du sort de ce traité lundi avec le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov et a aussi passé près de 5 heures avec Nikolai Patrouchev, le secrétaire du Conseil russe de sécurité nationale. John Bolton doit s'entretenir aujourd'hui avec le président russe Vladimir Poutine, selon le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. La caravane de migrants centra-américains qui se dirige vers les États-Unis comprend plus de 7000 personnes, selon Farhan Aziz Haq, le porte-parole adjoint de l'ONU, qui cite une estimation de l'Organisation internationale pour les migrations. Jacques Aristide.
La caravane comprend précisément 7233 personnes, dont la plupart ont l'intention de continuer leur marche vers le nord, a déclaré hier à Farhan Aziz Haq, en soulignant la nécessité qu'elle soit traitée avec respect et dignité. Le porte-parole adjoint de l'ONU a précisé que l'OIM et le HCR sont mobilisés pour porter assistance à ces migrants. Il a révélé que le HCR a renforcé ses capacités dans le sud du Mexique avec 32 personnels. D'après lui, ce chiffre est appelé à augmenter pour s'assurer que toutes les informations sur les procédures d'asile, dont des conseils légaux et une aide humanitaire si nécessaire, soient données à ces migrants. Après avoir passé une deuxième nuit au Mexique, des milliers de migrants, majorité honduriens, ont repris leur route pour tenter de rejoindre la frontière américaine à 3000 km. Leur périple peut durer au moins un mois. Le président Donald Trump, qui a déjà menacé de fermer la frontière sud, a annoncé hier une réduction immédiate des aides au Honduras, au Guatemala et au Salvador, accusés de ne pas avoir été capables d'empêcher cette nouvelle vague de migrants.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Guinée équatoriale, 34 membres du principal parti d'opposition ont été libérés hier, 12 jours après l'annonce d'une grâce présidentielle. Nani Talani.
Le président du parti de l'opposition Citoyen pour l'innovation, Gabriel Nsé Obiang, se dit satisfait parce que ses camarades ont été relâchés, même si beaucoup présentent des séquelles de torture. Père Gontino Miguel Edou a le bras cassé depuis 9 mois avec une hémorragie interne, selon M. Nsé Obiang. Il ajoute que 2 autres militants, Evaristo Oyagasima et Juan Obama Edou, sont morts en détention. Le gouvernement a démenti cette information. Incarcérés à la prison de Vinayong, ses opposants ont été condamnés en février à 30 ans de prison pour sédition, désordre public, atteinte à l'autorité et blessures graves après des échauffourées avec les forces de l'ordre pendant la campagne pour les législatives en novembre 2017. Le parti d'opposition Citoyen pour l'innovation est interdit depuis février. La télévision d'État parle de plus de 160 détenus graciés. La vague des libérations a débuté samedi avec la sortie de prison de 55 personnes.
Au Cameroun, après près de 36 ans au pouvoir, le président Paul Biya a donc été reconduit pour un mandat de 7 ans avec 71,28% des suffrages exprimés. Il est largement vainqueur de l'élection du 7 octobre, loin devant ses rivaux Maurice Kamto, Cabral Libi et Joshua aussi. Éric Manirakiza a recueilli hier soir les réactions d'auditeurs de VOA Afrique au cours de l'émission interactive. À votre avis?
Ce qui vient de se passer au Cameroun, c'est déplorable. Parce que Paul Biya ne pouvait pas passer. Franchement, quelqu'un à 85 ans ne peut rien développer que son ventre. Il ne peut rien développer que sa famille biologique et politique. Comment nous devons continuer avec des gens comme ça?
Le long règne de Paul Biya est un règne de médiocrité parce que depuis son accession au pouvoir, depuis 1982, tous les indicateurs de développement humain sont au rouge. Il y a deux classes au Cameroun, une classe des pauvres qu'il a su maintenir par la peur et par la répression de son armée, et une autre classe de profiteurs composée des fonctionnaires camerounais, des sultanats dans le Grand Nord, d'autres l'Amido. Voilà comment Paul Biya a constitué autour de lui une classe qui a humilié, handicapé et divisé les Camerounais. Sa victoire d'aujourd'hui est une insulte à la démocratie et c'est une entrave grave à l'évolution de l'humanité. Voyez-vous, c'est une tragédie pour la démocratie.
Je ne partage pas mon avis avec vraiment mon prédécesseur. Je commencerai d'abord à féliciter son excellence Paul Biya pour sa réélection, parce que ceux qui vivent ici au Cameroun, c'est eux, dans la plupart, qui ont quand même voté, qui ont fait quand même leur choix. Nos Camerounais analysent tout. En cas de changement, que deviendrait le Cameroun? Par exemple, s'il y avait eu un changement de président, la CAN, en tout cas, ne se jouera pas ici au Cameroun, parce que tous ceux qui avaient quand même l'argent pour la construction des stades et autres, en tout cas, vont fuir et partir avec cet argent.
Moi, je crois que la population a été consciente des actions de Paul Biya et même de la personne de Paul Biya. Il ne va pas changer.
La réélection de Paul Biya, quand même, ne me surprend pas. Là, il faut reconnaître que Paul Biya, il a beaucoup duré et il pense que prochainement, il va quand même abandonner et laisser le pouvoir à une jeunesse quand même qui, de mon point de vue, est compétente aujourd'hui et qui est prête aussi à lever les défis.
C'est quelque chose qui est très dommage de voir M. Paul Biya à 85 ans d'être réélu encore pour un mandat de 7 ans encore après avoir passé plus de 35 ans au pouvoir. C'est quelque chose vraiment qui indigne toute la jeunesse camerounaise.
Moi, je dis que le peuple camerounais, sans réelle opposition, vient d'approuver, n'est-ce pas, la continuité de la dictature du président Paul Biya selon le verdict du Conseil constitutionnel.
En Afrique, le président sortant, vraiment, elle ne sort pas. Par exemple, on a vu aussi plusieurs pays qui ont marché par rapport à présents qu'ils ont fait au moins 35 ans au pouvoir ou moins 30 ans au pouvoir. Donc, je pense que d'aujourd'hui, leur pays, ils ont agressé d'aujourd'hui, surtout dans mon pays comme le Mali ou bien Burkina Faso ou bien à Côte d'Ivoire. Donc, je pense que vraiment, il faut que les peuples camerounais gardent leur espoir.
Vous savez, 35 ans au pouvoir, plus les 7 ans, ça fait 32 ans. C'est près des 11 mandats aux États-Unis. Donc, je ne pense pas que Paul Biya puisse incarner le changement pour de sa population lambda.
Sa réaction d'auditeur au résultat de la présidentielle au Cameroun a été recueillie par Eric Manirakiza. L'opposition guinéenne a décidé de maintenir l'organisation d'une manifestation ce mardi à Conakry, cela en dépit de son interdiction une semaine après la mort d'un manifestant lors de deux journées ville morte. L'opposition guinéenne proteste contre la violation, selon elle, par le pouvoir d'un accord conclu en août sur l'installation des élus locaux après le scrutin contesté du 4 février. L'installation des élus communaux a commencé au début du mois sous la supervision de délégués du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, mais l'opposition accuse notamment le pouvoir de corrompre certains de ses élus pour s'assurer le contrôle de mairies à travers le pays. Au Burkina Faso, des moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre le paludisme, le projet Target Malaria envisage d'effectuer les prochains mois un lâcher expérimental, mais le procédé est décrié par des organisations de la société civile qui craignent une catastrophe. En septembre, le projet a reçu l'autorisation de l'Agence nationale de biosécurité pour procéder à des lâchers de moustiques génétiquement modifiés mâles stériles sur deux sites d'études, mais le collectif citoyen pour l'agroécologie, regroupant une soixantaine d'organisations, est radicalement contre le projet, estimant que le risque zéro n'existe pas, surtout avec des manipulations génétiques. Et puis, 52 personnes sont mortes en détention préventive à Madagascar en 2017 en raison d'une paralysie de son système judiciaire, a annoncé aujourd'hui Amnesty International. Les conditions misérables dans lesquelles les personnes en détention préventive sont maintenues constituent clairement un traitement cruel, inhumain et dégradant, peut-on lire dans le rapport intitulé « Puni pour être pauvre » et qui se fonde sur des visites effectuées dans 9 établissements pénitentiaire sur la Grande Île. Le président par intérim de Madagascar, Rivo Rakotovao, a jugé le constat d'Amnesty International triste et inacceptable dans un communiqué. Point final à ce journal. Jean-Roger Bion à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Nanit Talani. À tout à l'heure et merci pour votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.